L'Américain Johnny Weissmuller, premier homme capable de nager le 100 mètres en moins d'une minute, va décrocher 4 médailles. Pourtant, Weissmuller a bien failli ne pas participer aux Jeux. Né en 1904 dans ce qui est encore l'Autriche-Hongrie, il devient apatride après la chute de l'Empire, ce qui l'empêche de participer aux JO. Pour venir à Paris, il va donc tricher sur son identité et se faire passer pour son frère, Peter, américain de naissance. Weissmuller devient une véritable attraction. Les spectateurs se pressent pour applaudir ses performances. Considéré comme le plus grand nageur de ce début du XXe siècle, il établit 28 records du monde tout au long de sa carrière. 8 ans après les Jeux, c'est dans les salles de cinéma que le public viendra l'admirer. Il sera l'interprète de Tarzan et de son célèbre cri dans pas moins de 12 films. Pour les Français aussi, ce bassin des Tourelles sera synonyme de médaille d'or. Les tricolores y obtiennent leur premier titre olympique dans un sport collectif, le waterpolo. Ils battent en finale la Belgique, qui, comme à Anvers 4 ans plus tôt, décroche la médaille d'argent. Au total, la France va remporter 38 médailles, dont 13 d'or. Elle se classe 3e, derrière les États-Unis et la Finlande. C'est en cyclisme que les Français vont survoler la compétition avec 4 médailles d'or. Celui qui va tout rafler s'appelle Armand Blanchonnet. Surnommé le Phénomène, il remporte la course sur route en individuel comme en équipe, juste devant la Belgique qui décroche l'argent. Les cyclistes français gagnent 2 autres médailles sur piste dans un vélodrome plein à craquer. Il faut dire qu'à l'époque, le vélo est une vraie passion française. Il est devenu un moyen de transport utilisé par tous, les ouvriers en ville, comme les paysans à la campagne. Entre les deux guerres, on compte près de 9 millions de bicyclettes pour 40 millions d'habitants. Toutes les familles en possèdent une. Le vélo est populaire et il a sa course, le Tour de France. Le grand rendez-vous a été créé en 1903 par le journal L'Auto, qui cherche à doper ses ventes pendant l'été. Première traversée des cols des Pyrénées en 1910, première ascension du col du Galibier l'année suivante, introduction du maillot jaune en 1919, la légende du Tour s'écrit édition après édition. On se presse chaque été le long des routes pour acclamer les champions. Le temps d'une étape, cette fête gratuite qui passe près de chez soi abolit les frontières sociales et fédère tout le pays. Les cyclistes sont célébrés en véritables dieux de la route. Mais en 1924, le Tour est aussi déjà l'objet de scandales. Henri Pélissier, personnage haut en couleur, vainqueur l'année précédente, a décidé d'abandonner l'épreuve. Il dénonce le chemin de croix que vivent les cyclistes et le dopage auquel ils sont obligés de se soumettre. Dans un article signé du grand reporter Albert Londres, qui couvre pour la première fois la compétition, Pélissier évoque la cocaïne, le chloroforme et les pilules qui les aident à atténuer les souffrances. Ces déclarations n'empêcheront pas le sacre d'Ottavio Bottecchia, premier Italien vainqueur du Tour de France. Aux Jeux de 1924, les Français ne vont pas seulement briller en cyclisme. Des champions vont se démarquer dans 2 autres disciplines. Charles Rigoulot, c'est l'homme le plus fort du monde. Avec son seul bras droit, il soulève plus de 87 kilos et décroche la médaille d'or. À une époque où l'on exalte le corps viril, celui qui exerce comme boucher à la ville incarne la perfection masculine. Beau, fort, sympathique et désirable, modèle idéal des photographes d'agences de presse. L'exploit de Charles Rigoulot a lieu au cœur de Paris, dans l'un des lieux les plus emblématiques de ces Olympiades, le Vélodrome d'hiver. Ce Veldiv, endroit tristement célèbre aujourd'hui, abrite également certaines épreuves d'escrime dominées par les Belges et par les Français. La Belgique décroche 4 titres, dont une médaille d'or attribuée à Charles Delporte. Côté français, Roger Ducret remporte à lui seul 5 des 38 médailles tricolores. Mais Ducret ne va pas se contenter de participer aux épreuves. Il va aussi les commenter. Chaque jour, il écrit son article pour les 3 quotidiens auxquels il collabore. L'Écho des Sports, l'Intransigeant et la Petite Gironde. Les lecteurs peuvent apprécier ces chroniques qui ne sont pas dépourvues de parti pris, comme dans l'édition du 27 juin, où il ne souhaite rien d'autre qu'une victoire française. Le 9 juillet 1924, le Miroir des Sports publie des dessins qui feraient scandale aujourd'hui. Une pleine page pour détailler les 4 races représentées aux Jeux Olympiques. Les races blanches, noires, jaunes et rouges. Le journaliste ne manque pas de rassurer le lecteur en soulignant que la supériorité de la race blanche n'est pas compromise par les 3 autres. Pourtant, une épreuve va mettre à mal ce préjugé et ce complexe de supériorité de l'homme blanc. William de Hart Hubbard, un jeune athlète de 19 ans, parvient à décrocher une médaille d'or en saut en longueur en franchissant 7,44 m. Avant de quitter les États-Unis pour Paris, il avait écrit à sa mère « Dis à papa que je vais tout faire pour être le premier champion olympique de couleur en individuel. » Il a tenu sa promesse. Fidèle à sa lecture du Monde, l'hebdomadaire Le Miroir des Sports relate l'exploit du nègre américain. Pour comprendre ces propos qui apparaissent totalement déplacés, il faut se replonger dans le contexte de l'époque. La France est alors la 2e puissance coloniale après la Grande-Bretagne. Après la Première Guerre mondiale, son empire s'étend sur plus de 12 millions de kilomètres carrés, près de 20 fois sa surface actuelle. La France est présente sur tous les continents. Cette position de puissance coloniale alimente la conviction que la race blanche est la race supérieure. À plusieurs milliers de kilomètres de là, les Parisiens n'ont eu l'occasion de croiser des personnes de couleur qu'à de très rares occasions. Notamment dans les zoos humains, où les Noirs sont exhibés comme des bêtes de foire. La seule figure reconnue, c'est le clown Chocolat, de son vrai nom Raphaël Padilla, popularisé au cinéma par Omar Sy. À la fin du 19e siècle, avec son complice Foutite, ce fils d'esclave cubain fait rire tous les enfants, en endossant le rôle de souffre-douleur. Bien avant Joséphine Baker, il est le premier artiste noir très populaire en France. Des personnes de couleur, les habitants de la métropole en croisent lors des expositions coloniales organisées dans tout le pays. Paris, Marseille ou Strasbourg, on reconstitue des villages indigènes et des édifices s'inspirant des territoires colonisés. Plusieurs millions de visiteurs prennent part à ces grandes foires exotiques. Pendant la guerre aussi, ces deux populations ont eu l'occasion de se côtoyer. Des habitants des colonies ont été enrôlés dans l'armée, quand d'autres sont venus prêter main forte à l'économie. Pour remplacer les hommes partis au combat, 250 000 travailleurs coloniaux et chinois ont été employés dans les usines d'armement, dans les transports ou dans les mines. Ces colonies constituent aussi un réservoir d'athlètes pour la France. Ahmed Bouguera El Ouafi, né en Algérie, court le marathon sous la bannière tricolore. Cet ouvrier de chez Renault se classe 7e en 1924. 4 ans plus tard, il parviendra à décrocher la médaille d'or à Amsterdam. Après la guerre, la France continue de faire appel à des travailleurs hors de ses frontières. Plus de 10% de la population active masculine a été tuée sur les champs de bataille. Pour reconstruire et redresser le pays, c'est vers les Italiens, les Polonais ou encore les Belges qu'on va se tourner. En 1924, on crée même la Société Générale d'Immigration. Ce sont les chefs d'entreprise eux-mêmes qui se chargent directement de sélectionner et d'acheminer la main-d'œuvre étrangère. En 10 ans, le nombre d'immigrés va doubler pour atteindre 7% de la population. La France devient le plus grand pays d'immigration au monde, devant les États-Unis. L'arrivée de ces nouveaux venus s'accompagne de tensions, une partie de la population témoignant d'une certaine hostilité à l'égard des étrangers. Quelques journaux fustigent les métissages imprudents ou stigmatisent le Belge, voleur de travail. Si l'on ne parle pas encore de grands remplacements, on n'hésite pas à souligner la dilution de l'identité française et la crainte de devenir minoritaire dans son pays. Ces étrangers seront les premiers licenciés quand la France sera frappée par la crise et le chômage au début des années 30. On n'hésitera pas alors à les renvoyer chez eux. En 1924, le programme olympique ne se limite pas au sport. Il compte aussi des épreuves artistiques. À l'époque, Paris, capitale culturelle, entend rester fidèle à sa réputation en décernant des médailles dans 5 disciplines. Les noms des lauréats ne sont pas passés à la postérité, mais les membres du jury sont, eux, très prestigieux. Maurice Ravel et Gabriel Fauré pour la musique, Auguste Perret pour l'architecture, l'écrivain Jean Giraudoux pour la littérature et l'artiste Fujita, grande figure parisienne de ses années 20, pour la peinture. Les œuvres sont exposées au Grand Palais, mais toutes les médailles ne seront pas décernées. Certains jurys considérant qu'aucun des travaux ne mérite une telle récompense. Une ironie pour une ville qui connaît un incroyable bouillonnement intellectuel et artistique. La capitale française est l'une des plus fréquentées en Europe. Les touristes viennent admirer tous ces monuments, en particulier le palais du Trocadéro, construit pour l'exposition universelle de 1878 et aujourd'hui disparu. Mais ils viennent surtout pour la tour Eiffel, qui en 1924 fête ses 35 ans. Pour cet anniversaire, elle se refait d'ailleurs une beauté. Une 20aine d'ouvriers vont la rajeunir en la repeignant. Après l'avoir beaucoup critiquée, les Parisiens se sont habitués à sa silhouette. Elle est même devenue le symbole de la France. Mais les touristes ne sont pas les seuls à venir l'admirer. Les peintres comme Modigliani et Picasso, les sculpteurs, les écrivains comme Hemingway, sont tombés sous le charme de Paris. Il se donne rendez-vous à Montparnasse, un quartier en pleine effervescence. C'est là que les artistes organisent chaque année le bal de la Horde. Sur des rythmes endiablés, le public peut y croiser les acteurs et les actrices du music-hall. Car les années 20 à Paris, c'est aussi le triomphe de la fête. Les jeunes veulent s'amuser pour oublier les horreurs de la guerre, avec un slogan, « Plus jamais ça ». C'est cette période d'euphorie et d'insouciance qu'on appellera des décennies plus tard les années folles. Cette libération est incarnée par une Parisienne en particulier. Jeanne Bourgeois, plus connue sous le nom de Miss Tinguette. Actrice et chanteuse, la femme aux divines gambettes devient la vedette du Casino de Paris et du Moulin Rouge grâce à sa gouaille. Le public se passionne pour sa vie et a suivi la relation tumultueuse qu'elle a entretenue avec Maurice Chevalier, lui aussi artiste très populaire du music-hall. Les visiteurs présents à Paris à l'été 1924 pourront aller les applaudir entre deux épreuves des JO. L'été 1924, la canicule s'abat sur toute la France. Paris n'est pas épargné. Dans la capitale, chacun cherche un coin de fraîcheur. Les familles se pressent dans les parcs et n'hésitent pas à piquer une tête dans les bassins des jardins publics. La température est si accablante que certaines festivités du 14 juillet sont menacées d'annulation. Mais l'épreuve du marathon prévue le 13, elle, aura bien lieu. Les organisateurs ont tiré les leçons de l'épreuve du cross-country. Pour éviter le même désastre, le départ est donné en fin d'après-midi. Les 58 coureurs doivent faire l'aller-retour entre Colombes et Pontoise. Tout au long du parcours, les points de ravitaillement sont pris d'assaut. Et pour tenter de se désaltérer, les sportifs ne boivent pas que de l'eau. Les journalistes suivent dans des véhicules et ne ratent rien de la course. Ils assistent à la victoire d'Albin Stenroos, qui, après le triomphe de Paavo Nurmi, confirme la suprématie des Finlandais sur les courses de fond. Les Jeux Olympiques de 1924 seront les premiers à bénéficier d'une très importante couverture médiatique. Près de 700 journalistes du monde entier vont relater la compétition. Les spectateurs du stade de Colombes ont pu suivre l'épreuve, mais sans bouger des gradins, grâce à une innovation technologique. La télégraphie sans fil. La TSF. C'est l'une des révolutions de ces Jeux Olympiques. Pour la première fois, les épreuves sont diffusées en direct à la radio. Les Français peuvent entendre la voix d'Edmond de Horter. Il est le premier commentateur sportif de l'histoire, mais à l'époque, on l'appelle le parleur inconnu. Edmond de Horter n'en est pas à son coup d'essai. Il a déjà commenté plusieurs matchs de boxe.
Nos deux hommes sont maintenant seuls, debout, leurs mains grattées de mitaines appuyées sur les cordes, attendant le coup de gong. Flanner est un peu pâle, il est culotté de bleu, les cheveux luisants bien collés. Et Gennaro, au contraire, sa crinière en broussaille, sa culotte est grenade. Premier round.
Les organisateurs des JO et ses collègues de la presse écrite ne voient pas d'un très bon œil la concurrence de ce journaliste d'un nouveau genre. Et dans un premier temps, ils lui interdisent l'accès au stade. C'est donc depuis la nacelle d'un ballon qu'Edmond va réaliser ses reportages. De l'autre côté du poste, les Français ne sont pas encore très nombreux à être équipés. Mais là encore, on fait preuve d'une folle ingéniosité. Grâce à un récepteur glissé dans sa jarretière et à son ombrelle qui sert d'antenne, cette jeune femme ne rate rien des épreuves sportives. Ce dispositif va révolutionner la vie des Français qui vont pouvoir se tenir informés dans n'importe quelle situation. Même si l'antenne de réception demeure parfois un peu encombrante. L'autre révolution médiatique, c'est la création d'un pool d'images. Une équipe filme les épreuves et revend les images aux différentes sociétés de presse. Ce système, mis en place par le pays qui accueille les Jeux, se perpétue encore aujourd'hui pour chaque édition des JO. 1924 sera l'occasion d'une autre nouveauté de taille, mais cette fois à plusieurs centaines de kilomètres de Paris. En 1924, les Jeux ne se tiennent pas pendant 2 semaines comme aujourd'hui, mais ils vont se prolonger sur plusieurs mois. Ils ont